Gaston Bachelard, radio. Aujourd'hui, le philosophe et la poésie.
L'imagination est la moins conditionnée de toutes les puissances de notre être. Comme le dit Paul Éluard, dans les sentiers et les routes de la poésie, les poètes sont toujours porteurs d'une imagination sans limite. Ainsi, avec l'éclat de l'éphémère, l'image poétique nous fait vivre l'être en intensité.
Page blanche, ce grand désert à traverser, jamais traversé. Cette page blanche qui reste blanche à chaque veillée, n'est-elle pas le grand signe d'une solitude sans fin recommencée? Et quelle solitude s'acharne contre le solitaire quand elle est celle d'un travailleur qui non seulement veut s'instruire, qui non seulement veut penser, mais qui veut écrire? Alors la page blanche est un néant douloureux, le néant de l'écriture. Oui, si seulement on pouvait écrire. Après, peut-être, pourrait-on penser. Primum scribere, deinde philosophari, dit une boutade de Nietzsche. Mais on est trop seul pour écrire. La page blanche est trop blanche, trop initialement vide pour qu'on commence à exister vraiment en écrivant. La page blanche impose silence. Elle contredit la familiarité de la lampe. La gravure a dès lors deux pôles, le pôle de la lampe et le pôle de la page blanche. Entre ces deux pôles, le travailleur solitaire est divisé. Un silence hostile règne alors dans ma gravure. Mallarmé n'a-t-il pas vécu dans une gravure divisée quand il évoquait la clarté déserte d'une lampe sur le vide papier que la blancheur défend? Gaston Bachelard, La flamme d'une chandelle.
J'aime beaucoup la façon dont Bachelard crée tout le temps une fiction qui est sa propre fiction, c'est-à-dire celle de l'homme assis à sa table en train d'écrire.
Claude Royer-Journoux.
En général, justement, avec cette chandelle dont il fait bien la distinction avec l'ampoule, mot fortement ridicule, mot sans âme, puisque seule la flamme a cette verticalité habitée. Et quand il parle, il y revient souvent au cours des livres, de cette personne seule, luttant avec un livre difficile, un livre qui n'est jamais lu, c'est important, un livre qui, dans le fond, ne peut être qu'à relire. Il n'est jamais lu parce que la difficulté est telle, l'attention de Bachelard est telle aussi, tellement vive, qu'au fond, lire, c'est simplement apprendre qu'on n'a rien lu. Et la leçon de Bachelard, entre autres, c'est quand même nous dire tout le temps qu'on ne fait que recommencer. Donc, dans cette image de livre tout le temps à relire, ce livre difficile, en fait, n'est que la métaphore de la difficulté d'écrire. Et je me dis que dans cette mise en scène très utile parce qu'elle rend le monde concret, la table, la lampe, par ailleurs la nourriture, qui est souvent, elle, une métaphore de la fin de la lecture, enfin du désir de lire. Souvent, on se dit que tout cela n'est pas tellement loin, bien que ça soit radicalisé là d'une façon extraordinaire, mais qu'on n'est pas tellement loin, par exemple, du travail, de certains échos, de certains moments du travail de quelqu'un comme Roger Laporte. Quand Bachelard parle de la table d'existence, c'est quelque chose qu'il devrait aimer. C'est vrai que pour celui qui écrit, les heures passent à cette table. Et que c'est peut-être là qu'il y a une intensité maximale. Thank you.
Quelle est l'attitude de Gaston Bachelard, philosophe, face à la poésie? Est-ce celle d'un homme du savoir qui tient à distance son objet pour mieux l'analyser? Est-ce celle d'un critique littéraire froid? Certes non. Il y a chez Bachelard un élan formidable, un élan d'admiration pour la poésie, un émerveillement devant les images poétiques, une fascination, peut-on dire une tentation d'être poète. Son enthousiasme, en tout cas, s'exprime d'une façon très vive, dans une causerie, véritable éloge de la poésie, qu'il a enregistrée le 16 mai 1954.
Toute poésie est surprenante. Elle est, par essence, une nouveauté du langage. Si simple que ce soit une image poétique, si particulière, si éphémère qu'elle soit, l'image poétique est sous le signe d'un dépassement de l'humain. Et le philosophe, si traditionnellement attaché à l'étude des rapports du langage et de la pensée, à l'étude plus profonde du logos et de l'être de l'homme, trouve l'occasion de minutieuses expériences ontologiques s'il essaie de déterminer la valeur de l'image poétique en fonction de son essentielle nouveauté. Saisie dans son fourmillement de création, la poésie est le moins passif de tous les arts. Elle ne copie rien. Elle ne tolère aucune redite. Le poète, sans cesse, nous rend à la tentation d'imaginer.
Disons pourquoi, dans nos livres sur l'imagination, nous nous bornons à considérer l'imagination littéraire. Il y a d'abord à cela une raison de compétence. Nous n'en ambitionnons qu'une, la compétence de lecture. Nous ne sommes qu'un lecteur, qu'un liseur, et nous passons des heures, des jours à lire d'une lente lecture les livres ligne par ligne, en résistant de notre mieux à l'entraînement des histoires, c'est-à-dire à la partie clairement consciente des livres, pour être bien sûr de séjourner dans les images nouvelles, dans les images qui renouvellent les archétypes inconscients. Car cette nouveauté est évidemment le signe de la puissance créatrice de l'imagination. Une image littéraire imitée perd sa vertu d'animation. La littérature doit surprendre. Certes, les images littéraires peuvent exploiter des images fondamentales. Et notre travail général consiste à classer ces images fondamentales. Mais chacune des images qui viennent sous la plume d'un écrivain doit avoir sa différentielle de nouveauté. Une image littéraire dit ce qui ne sera jamais imaginé deux fois. On peut avoir quelques mérites à recopier un tableau. On n'en a aucun à répéter une image littéraire. Or, nous sommes dans un siècle de l'image. Pour le bien comme pour le mal, nous subissons plus que jamais l'action de l'image. Et si l'on veut bien considérer l'image dans son effort littéraire, dans son effort pour mettre au premier plan les exploits linguistiques de l'expression, on appréciera peut-être mieux cette fougue littéraire qui caractérise les temps modernes. Il semble qu'il y a déjà des zones où la littérature se révèle comme une explosion du langage. Les chimistes prévoient une explosion quand la probabilité de ramification devient plus grande que la probabilité de terminaison. Or, dans la fougue et la rutilance des images littéraires, les ramifications se multiplient. Les mots ne sont plus de simples termes. Ils ne terminent pas des pensées, ils ont l'avenir de l'image. La poésie fait ramifier le sens du mot en l'entourant d'une atmosphère d'images. On a montré que la plupart des rimes de Victor Hugo suscitaient des images. Entre deux mots qui riment, joue une sorte d'obligation de métaphore. Ainsi, les images s'associent par la seule grâce de la sonorité des mots. Dans une poésie plus libérée comme le surréalisme, le langage est en pleine ramification. Alors, le poème est une grappe d'images. Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté.
Lire un poète véritable, c'est sortir de la passivité de l'être. C'est vivre la surprise d'un dépassement du langage humain. Il semble que la poésie soit une sorte de folie consentie, une vacance de la raison et de l'expérience. Dans le Phèdre, Platon ne dit-il pas « Les biens les plus grands nous viennent d'une folie qu'un don divin nous a accordée ». Sur le simple plan de la psychologie, on doit reconnaître que la poésie est une réalité humaine éminente. En elle, l'inconscient flamboie. L'inexprimable sort de la prison de l'expression commune. Il semble que dans l'excitation dynamique qu'est toute poésie, l'homme se donne un devenir, qu'il devienne vite. En somme, la poésie représente un des trajets d'humanité les plus rapides, les plus droits. Elle est, dans l'homme, le démon d'humanité. Elle exprime l'homme en se dégageant même des responsabilités de ce qu'elle exprime. Elle accepte toutes les imprudences. Elle est l'être même de l'exagération.
Quant à nous, à donner à la lecture heureuse, nous ne lisons, nous ne relisons que ce qui nous plaît, avec un petit orgueil de lecture mêlé à beaucoup d'enthousiasme. Alors que l'orgueil se développe d'habitude en un sentiment massif qui pèse sur tout le psychisme, la pointe d'orgueil qui naît de l'adhésion à un bonheur d'image reste discrète, secrète. Elle est en nous, simples lecteurs, pour nous, rien que pour nous. C'est de l'orgueil en chambre. Personne ne sait qu'en lisant, nous revivons nos tentations d'être poètes. Tout lecteur un peu passionné de lecture nourrit et refoule par la lecture un désir d'être écrivain. Quand la page lue est trop belle, la modestie refoule ce désir, mais le désir renaît. De toute façon, tout lecteur qui relit une œuvre qu'il aime sait que les pages aimées le concernent. La sympathie de lecture est inséparable d'une admiration. On peut admirer plus ou moins, mais toujours un élan sincère, un petit élan d'admiration est nécessaire pour recevoir le gain phénoménologique d'une image poétique. La moindre réflexion critique arrête cet élan en posant l'esprit en position seconde, ce qui détruit la primitivité de l'imagination. En cette admiration, qui dépasse la passivité des attitudes contemplatives, il semble que la joie de lire soit le reflet de la joie d'écrire, comme si le lecteur était le fantôme de l'écrivain. Gaston Bachelard, La poétique de l'espace.
Au fond, ce que j'aime chez Bachelard, c'est son amour de la langue. Enfin, pour le résumer... Et cet amour de la langue va avec une espèce de livre qu'il n'écrira jamais. C'est-à-dire, je pense que Bachelard, au cours de tous ses livres, n'a fait que transmettre le désir intime, bouleversant d'un livre qu'il n'écrira pas. Parce que pourquoi cette attention tellement extrême à la lecture ? Non pas que ça soit pas une chose courante chez le philosophe, mais là, elle est quand même très extrême. Non seulement elle est très extrême, mais en plus, elle est joueuse, elle est ludique. Je veux dire, il peut citer tout autant Claudel que Joël Bousquet. Il était bien l'un des rares à être attentif à Joël Bousquet dans les années 50, qui avait aussi cette espèce d'intuition d'un livre. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que chez Bachelard, il y a un grand désir de lecture, un lecteur boulimique, et que ce lecteur boulimique, c'est quelqu'un qui cherche où se situe l'écrire. Son problème, c'est pas la lecture. Je veux dire, il revient tout le temps. Les citations, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Il cite une boutade de Nietzsche là, sur cet écrire qui serait premier, et je crois que c'est ça la problématique de Bachelard, c'est-à-dire, est-ce que je pourrais enfin écrire pour pouvoir ensuite penser ? Et est-ce que face à ce papier, j'en ai la force ? Est-ce que de cette solitude est propice à cela. Et il ose, il n'ose pas.
Si le philosophe veut caractériser le dynamisme poétique, ne devra-t-il pas définir l'homme comme l'être qui exagère? Mais cette définition de l'homme n'est pas, tout compte fait, si mauvaise. La sagesse, l'expérience, la raison, la surveillance en nous et hors de nous, voilà sans doute bien des motifs pour arrêter la poésie première. L'imagination est la moins conditionnée de toutes les puissances de notre être. Comme le dit Paul Éluard dans Les Sentiers et les Routes de la Poésie, les poètes sont toujours porteurs d'une imagination sans limite. Ainsi, avec l'éclat de l'éphémère, l'image poétique nous fait vivre l'être en intensité. Elle relève d'une psychologie du dynamisme. On le comprendra si l'on veut bien remarquer que le langage est, à lui seul, un des témoignages les plus nets de l'énergie psychique. La poésie est alors le langage dans son acte créateur. C'est elle qui donne l'animation la plus homogène qui soit au langage des hommes. On peut dire que lorsqu'il y a de bons poètes dans un pays, le langage s'y porte bien. Et quand le langage va bien. Tout est vivant, vivant au sommet de la vie. À elle seule, la passion poétique est une passion de la parole qui donne une animation à tout l'être humain. Celui qui consacre quelques heures par jour à la lecture des poètes s'en trouve vraiment tonalisé. Il en reçoit une leçon de liberté qui vivifie le corps et l'esprit. Paul Éluard dit encore « La poésie rend à notre sang la couleur du feu ». Et cette flamme est si pure, si essentielle, qu'elle éclaire toutes les finesses du cœur et de l'esprit. Joël Bousquet disait jadis dans Le Meneur de Lune, le style d'un écrivain est un sixième sens. C'est ce sixième sens qui donne une telle unité aux œuvres d'un grand poète. Cette unité, comment n'émerveillerait-elle pas le philosophe? Le poète paraît livré à l'occasion. Il accueille, il cherche la nouveauté. On peut croire que pour lui, le monde est un instable kaléidoscope. Et cependant, voici que les images s'organisent. Le génie poétique est alors un véritable intégrateur des nouveautés les plus inattendus. Son imagination, son sixième sens, ne le trompe pas, ne le trompe jamais. La parole nouvelle se trouve être la parole vraie. La parole surprenante se trouve être la parole attendue, celle qui trouve tout de suite sa place dans la langue d'aujourd'hui. Le poète, ce songeur, par le seul fait qu'il est le plus actif des acteurs du langage, se place ainsi à la pointe même de l'actualité.
On aura des impressions matérialistes profondes, à propos des expériences les plus banales. Si l'on veut bien noter, par exemple, avec quelle sincérité dans le détail Michel Léris taille son crayon. Une longue page est là, disant tout, aimant tout, s'intéressant à tout. Il ajuste le couteau, d'abord à la dureté du bois, puis à la dureté crissante de la mine. Rien n'y manque, ni les bruits, ni les odeurs. Voici donc un essai de phénoménologie de la matière. Plus que toute expérience préparée de longue main, que réussit ou manque un professeur de physique, ces actes d'une élémentaire simplicité nous font entrer en contact avec la matière minérale, ici comprise entière, dans les limites ridiculement réduites de ce corps luisant, proche des pierres précieuses par son exactitude et sa délicatesse, plus proche encore du charbon par son opacité et sa coloration. Et la participation à l'intimité des substances est si profonde que Michel Léris retrouve comme d'instinct les images de la vie minérale. Au centre de l'enveloppe de bois, elle-même environnée d'effluves au parfum tonique, est enfoui le filon houillé de la mine, la mince tige rigide à section ronde ou polygonale qui l'enserre semble être autant que la gaine protectrice le milieu nourricier. Ainsi, dans les vraies mines de houille qu'on exploite aux profondeurs de la terre, l'humus végétal et les sédiments géologiques s'entassent au-dessus de la matière convoitée comme des amas de vivres qui lui permettraient de se repaître clandestinement et de toujours se reformer. Mais toutes ces pages sont à lire. Elles nous donnent accès à un intérêt salutaire pour les choses, pour les substances. Elles nous aident à nous remettre dans la nature, dans les matières de la nature, à l'occasion d'un acte devenu banal du fait de notre inattention. Il semble que Léris nous redonne notre premier crayon. Quelle surprise aussi de sentir avec Léris qu'il y a une sorte de crayon cosmique qui nous oblige à penser à la mine des profondeurs de la Terre en aiguisant la mine de notre crayon. Les formalistes diront qu'il n'y a là qu'un jeu de mots. Une lecture sympathique des pages de Michel Léris nous prouvera qu'il y a là au contraire un jeu de choses, un jeu de matière. Sur des expériences d'une pauvreté formelle évidente, naissent des rêveries qui nous attachent aux substances, qui nous rendent sensibles aux valeurs des substances. Je me sens soudain d'accord avec l'auteur pour aimer ou mépriser des substances. J'ai reconnu une de mes haines implicites quand j'ai vu noter par Léris ces trépugnantes inventions qu'on appelle crayon-encre. Gaston Bachelard, la terre et les rêveries de la volonté. Là où la langue de Bachelard est la plus ludique, je crois, c'est là où il introduit à la fois une mosaïque citationnelle impressionnante, où des textes d'époques différentes s'accumulent, se rejettent. On le sent très amusé, très content de passer d'un auteur du 18e à un auteur contemporain, et où, à son tour, il introduit dans ses citations un souvenir personnel. Et alors là, on sent qu'il y a une espèce de condensation de son écriture et que pendant quelques lignes, quelques pages, il fait extrêmement attention à ce qu'il va dire. Et là, il y a une petite volonté comme ça, romanesque, bien menée. Alors là, évidemment, c'est écrit. Mais je ne sais pas si c'est là que c'est le plus écrit. Là où c'est le plus écrit, je crois, c'est finalement quand il parle de l'écriture. Sa fascination, c'est quand même qu'est-ce qu'écrire, et pas tellement qu'est-ce que penser. Enfin, c'est un peu rapide, mais il y a quelque chose qui donne à croire cela, je crois, parfois. D'abord, son amour de la littérature, comme si la littérature vraiment réussissait à déborder la pensée, à la démettre sans arrêt, comme si la pensée était pouvait être des scories d'écriture. En tout cas, chez lui, il y a une grande conviction. Tout en se disant que, quand même, on ne va pas trop y aller voir. Mais je pense que l'ampleur de son travail fait qu'il ne pouvait pas, en même temps, écrire ce livre. C'était mieux de le rêver. Parce qu'il a quand même abordé beaucoup de choses, non ?
Bien sûr, oui.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça aurait été ce livre? Un livre où il n'aurait pas été philosophe, où il aurait été simplement écrivain?
C'est un livre où il aurait modifié le cours de sa solitude. C'est-à-dire que la solitude qu'il a envisagée, cette solitude studieuse, au bord d'une table et d'une lampe, il l'a malgré tout dirigée. C'est-à-dire que je pense qu'il y a il y a certaines angoisses qui ont été très contrôlées tout d'un coup. Disons qu'il y a une peur qu'il n'a pas acceptée. Un risque peut-être. C'est ce qui le distingue d'un philosophe qui, lui, est vraiment un écrivain et qui a les mêmes initiales, c'est Georges Bataille. Qui, lui, a entendu la peur et a bien compris que la boutade de Nietzsche, ce n'était pas qu'une boutade. Penser, c'est d'abord écrire. Si Bachelard parle du feu, Georges Bataille se situe à l'intérieur du feu. C'est une pensée qui ne cesse pas de brûler. C'est facile, mais c'est une image facile, mais c'est... Parce que Bataille était, bon, d'une part, beaucoup plus proche de Nietzsche et beaucoup plus... Bataille est entré dans l'écriture, ce que Bachelard a fui. Et là, c'est la façon qu'on a, les uns et les autres, je crois, de manipuler nos angoisses et de s'en débrouiller.
Comme ce serait bon, généreux aussi à l'égard de soi-même, de tout recommencer, de commencer à vivre en écrivant. Naître dans l'écriture, par l'écriture, grand idéal des grandes veillées solitaires. Mais pour écrire en la solitude de son être, comme si on avait la révélation d'une page blanche de la vie, il faudrait des aventures de conscience, des aventures de solitude. Mais, à elle seule, la conscience peut-elle faire varier sa solitude? Oui, comment connaître, en restant seul, des aventures de conscience? Est-ce qu'on peut trouver des aventures de conscience en descendant dans ses propres profondeurs? Que de fois, vivant dans une de mes gravures, j'ai cru que j'approfondissais ma solitude, j'ai cru que je descendais spirale par spirale l'escalier de l'être. Mais dans de telles descentes, je vois maintenant que, croyant penser, je rêvais. L'être n'est pas au-dessous, il est au-dessus, toujours au-dessus, précisément dans la pensée solitaire qui travaille. Il faudrait donc, pour renaître, devant la page blanche, en pleine jeunesse de conscience, mettre un peu plus d'ombre dans le clair-obscur des anciennes images, des images fanées. En revanche, il faudrait regraver le graveur, regraver en chaque veillée l'être même du solitaire dans la solitude de sa lampe. Bref, tout voir, tout penser, tout dire, tout écrire en existence première. Gaston Bachelard, La flamme d'une chandelle.
C'était Le philosophe et la poésie. Gaston Bachelard, Causerie, 1954. Document INA recueilli par Suzanne Legrand. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Avec la participation de Claude Royer-Journoux. Collaboration technique, Robert Altaber. Un rêveur de mots. Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique. Deuxième partie. Archives 1947-1962. Cette semaine, les grands savants du 19e siècle. L'essor scientifique du siège de Paris à la Troisième République. Gaston Bachelard, 1949.
J'ai pu montrer que nos savants et nos techniciens n'étaient en rien inférieurs à ceux des nations étrangères. l'organisation militaire du pays n'a pas su, à cette époque, mettre en œuvre les possibilités techniques de défense que fournissait la science. Je voudrais aujourd'hui rappeler les efforts scientifiques et techniques pour aider, dans des conditions singulièrement difficiles, à la défense de Paris assiégée. Dès son arrivée au ministère des Travaux publics, après la révolution du 4 septembre, le ministre d'Orient organise le génie civil, où ingénieurs et professeurs unirent leurs efforts pour organiser la défense du pays. Tout manquait, en particulier les canons. Le comité du génie civil réunit au Conservatoire des Arts et Métiers, entreprit la fabrication dans toutes les usines de la capitale. Un auteur de l'époque dit que le Conservatoire des Arts et Métiers offrit, pendant toute la durée du siège, l'aspect d'un vaste dépôt d'artillerie. À côté du génie civil, Dorian et Jules Simon créèrent des comités scientifiques de défense des arrondissements de Paris. Le comité supérieur était divisé en deux sections distinctes, celle de chimie et de pyrotechnie, présidée par Marcelin Berthelot, alors professeur au Collège de France, et la section de mécanique et arts militaires, présidée par Delaunay, directeur de l'observatoire. Le chimiste champion organisa un service pour la fabrication de torpilles à la dynamite. À la fin de novembre 1870, deux fabriques de dynamite fonctionnèrent à Paris, produisant par jour environ 300 kg d'explosifs, ce qui était considérable pour l'époque. Les torpilles à la dynamite servirent dans les combats d'Avron, de Drancy, de Buzenval. Le problème des vivres fut naturellement rapidement angoissant, quoique le rassurement n'ait pas été au début extrêmement sévère. Le problème de l'huile a été résolu grâce à l'ingéniosité du chimiste Wurtz. Comme l'éclairage à l'huile était encore important à Paris en 1870, la capitale disposait d'un assez gros stock d'huile à brûler. C'était de l'huile de colza. Wurtz trouva le moyen de lui enlever son odeur désagréable, ce qui permit un secours important pour l'alimentation. Le chimiste Frémy, professeur au muséum, en séparant l'océine et la gélatine des eaux, proposa de livrer la première comme aliment. On vendit du bouillon d'océine, Frémy, au prix de 0,40 le litre. Le grand traiteur Ponce fit des croquettes à l'océine. C'est, dit un auteur de l'époque, une préparation très heureuse. Elle ressemble assez au pied de cochon. Pour 0,30 francs, on assimilait, paraît-il, une dose suffisante de matière nutritive. La conservation des matières alimentaires fut étudié scientifiquement. Charles Tellier proposa deux méthodes, réfrigération et vide. Mais les privations alimentaires ne furent peut-être pas les pires peines des assiégés. La privation nouvelle des familles dispersées par l'invasion, l'isolement moral d'une ville assiégée travaillait le cœur et l'esprit. D'où l'émouvant problème des communications. On a tout essayé. La télégraphie optique, qui sous la direction des physiciens Lissajoux et Cornu, entre autres savants, donna des résultats importants. On espéra un instant pouvoir immerger un câble électrique dans la Seine. Mais c'est surtout le service des ballons et des pigeons voyageurs qui parvint à rompre le silence de la ville assiégée. Le premier ballon qui quitta Paris fut le Neptune. Il appartenait à Nadar, au photographe célèbre, au héros du sensationnel voyage aérien du géant. L'administration acheta ce ballon qui partit le 23 septembre en portant 103 kg de lettres. Puis les ballons se succédèrent assez régulièrement. Il en partit en tout 54. Le dernier, le général Combrane, s'éleva le 28 janvier 1871. Trois ballons tombèrent dans les lignes allemandes. Au total, les 54 ballons emportèrent 2 500 000 lettres. De si nombreuses ascensions demandèrent un effort technique considérable. Parmi les principaux organisateurs, il faut citer les deux frères Godard, aéronautes éprouvés. Ils dirigèrent la station de la gare d'Orléans. Sur 54 départs, 26 eurent lieu à partir de cette station. Les ballons étaient de capacité de 2000 mètres cubes, en percaline vernis à l'huile de lin. La force ascensionnelle devait être suffisante pour recevoir 4 personnes et tous les appareils nécessaires. Les frères Godard firent partir également de nombreux petits ballons non montés de 6 mètres de diamètre pouvant emporter 50 kg de cartes postales. Un autre moyen de communication fut le pigeon voyageur, ou, comme on disait alors, le pigeon messager. Un porte-dépêche, un petit tube métallique, contenait un grand nombre de dépêches microscopiques. Un service installé à Tours organisait un véritable journal microscopique contenant de nombreuses dépêches privées. Ainsi, l'un d'entre ces journaux, mesurant seulement 12 cm carrés, 3 cm de large sur 4 de long, contenait 226 dépêches privées. Il suffisait à la réception de projeter ces dépêches avec une lanterne à projection et d'en faire des copies pour les destinataires. L'histoire politique a longuement décrit les voyages aériens des hommes politiques de Gambetta, de Keratry, de Rank. L'histoire des sciences doit signaler à son tour le départ de l'astronome Johnsen. Johnsen voulait observer une éclipse de soleil en Algérie. Il ne voulut pas demander aux Allemands un laissez-passer pour ce voyage scientifique. Il partit sur le Volta le 1er décembre, atterrit à Saint-Nazaire et parvint à temps pour le 22 décembre à Oran. Il fut complimenté par ses confrères étrangers de son noble courage, de son dévouement à la recherche scientifique. Mais les vicissitudes humaines ne sont pas les seuls à entraver la science. Le jour de l'éclipse solaire totale de 1870, le temps resta couvert et l'éclipse ne put être observée.
Gaston Bachelard, 1949.
Suivre la science française dans sa volonté de redressement. Les années qui suivirent la guerre de 1870 se caractérisent en effet par une grande vigueur de pensée, par un grand labeur scientifique. Mais nous allons d'abord nous référer aux travaux des Pasteur, des Berthelot, des Claude Bernard, qui, déjà bien avant 1870, s'étaient révélés des maîtres. Dans une lettre que Pasteur écrivait à Duclos en 1871, on lit « J'ai la tête pleine des plus beaux projets de travaux. La guerre a mis mon cerveau en jachère. Je suis prêt pour de nouvelles productions. » En fait, avec une merveilleuse continuité, Pasteur poursuivait son enquête sur la possibilité ou l'impossibilité de la génération spontanée. En 1879, il pouvait dire « J'ai cherché pendant 20 ans la génération spontanée sans la trouver. » Et dans cette recherche, il trouvait peu à peu autre chose. Il trouvait les germes spécifiques des différentes maladies qui étaient autant de preuves contre la théorie de la génération spontanée. Déjà préparé par des techniques d'avant 1870, on peut dire que la décade qui commence est caractérisée par la découverte microbienne de Pasteur. En 1874, Pasteur voit toute l'importance de l'asepsie. « Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, dit-il à l'Académie des sciences, jamais je n'introduirais dans le corps de l'homme un instrument quelconque sans l'avoir fait passer dans l'eau bouillante, et mieux encore, dans la flamme tout aussitôt avant l'opération. » Des pratiques qui nous sont devenues si familières ont suscité de longues polémiques. On en comprendrait mieux le prix si l'on suivait dans l'histoire les difficultés de leur établissement. Mais le problème de l'asepsie n'est que le côté en quelque sorte négatif du problème de l'immunisation. Tous les efforts positifs de Pasteur prennent leur sens progressif par les trois grandes recherches de Pasteur sur la maladie des vers à soie, sur la maladie du charbon chez le mouton, enfin sur la rage. Tous ces travaux qui ont conduit à l'apothéose de la vie de Pasteur appartiennent à l'épopée de la science française au XIXe siècle. La fougue de travail de Marcellin Berthelot n'est pas moins grande après la guerre que celle de Pasteur. Dans la décade qui s'ouvre, le savant chimiste qui a réalisé avant 1870 ses plus retentissantes synthèses de chimie organique, commence un cycle de recherches nouvelles. Aussitôt libéré de ses lourdes charges d'organisation militaire, Berthelot entreprend des recherches de thermochimie. Il en publie, mois par mois, des résultats dans les annales de chimie et de physique, où leur développement occupe plus de 2000 pages de 1869 à 1879. Il publia en 1879 un essai de mécanique chimique fondé sur la thermochimie. Il énonce le principe de la chaleur minima. Tout changement chimique accompli sans l'intervention d'une énergie étrangère à température constante, tend vers la production de corps et de systèmes de corps qui dégagent le plus de chaleur. En reconnaissance des services rendus pendant la guerre, les Parisiens donnèrent à Berthelot 30 000 voix aux élections de 1871, sans qu'il se fût porté candidat. En 1881, il fut nommé sénateur inamovible, ainsi commença la carrière politique du grand savant. Mais dans cette décade qui s'ouvrait après la défaite, une grande vie de savant s'achevait dans une fécondité extraordinaire. Il suffit de lire la nomenclature des œuvres de Claude Bernard dans cette période pour prendre conscience de ce travail surhumain. Ce sont là moins des livres que des catalogues d'expériences. En 1871 paraissait de Claude Bernard les leçons de pathologie expérimentale. En 1875, les leçons sur les anesthésiques et sur l'asphyxie. En 76, les leçons de physiologie générale. En 76 encore, les leçons sur la chaleur animale. En 1877, une œuvre sur le diabète. En 1878, la science expérimentale où le grand savant dégage sa philosophie finale. Il faut lire les pages que son disciple Paul Bert a écrites aussitôt après la mort de Claude Bernard, qui survint le 10 juin 1878. Paul Bert a bien noté le caractère essentiellement scientifique de la doctrine de Claude Bernard. Que s'il expose le déterminisme cérébral des actes intellectuels, les matérialistes le compteront parmi les leurs. Que s'il déclare qu'entre la pensée et le cerveau, il y a le même rapport qu'entre l'heure et l'horloge, les spiritualistes le voudront enrôler. En réalité, il n'est que physiologiste. Un savant étranger a pu dire « Claude Bernard n'est pas seulement un physiologiste, c'est la physiologie ». Un philosophe ne donnera jamais trop d'attention à un homme qui a voulu, en toute fidélité intellectuelle, être vraiment le sujet de sa propre pensée. On s'explique le mot de Gambetta, qui, à l'annonce de la mort de Claude Bernard, a pu dire « Au nom de la commission du budget, la lumière qui vient de s'éteindre ne sera pas remplacée. Ainsi, à peine close l'ère des malheurs de notre pays, que ses fils, que ses savants montraient toute la vitalité de l'énergie française. »
Gaston Bachelard.
C'est en 1870 que commence à la Sorbonne l'enseignement prestigieux de Charles l'Ermite qui devait durer jusqu'en 1897. En 1870 aussi, Émile Picard, qui a 24 ans, commence son œuvre d'une singulière richesse par le mémoire fameux sur les fonctions entières. Gaston Darboux, enfin, né en 1842, commençait à la même heure que Picard sa grande carrière universitaire. La physique s'organisait vraiment sur un plan international. En particulier, le congrès international qui devait réaliser l'unification du système des mesures, congrès qui devait se réunir à Paris en 1869, avait été retardé par la guerre. Il se réunit à Paris en 1872. 23 nations, dont l'Allemagne, y étaient représentées. Les représentants de la France étaient Le Verrier, le fameux astronome, Faye, Fizeau, Becquerel, Mathieu, le général Morin. On ne saurait donner toute l'importance qui convient à ce congrès qui avait pour objet le besoin d'unité des recherches scientifiques. Les expériences minutieuses de Cornu sur la détermination de la lumière sont de la même date. Cornu, professeur à l'école polytechnique, reprenait, en variant toutes les conditions, les fameuses expériences de Fizeau sur la vitesse de la lumière par la méthode de la roue dentée. Les deux postes d'observation étaient, d'une part, une mansarde de l'école polytechnique, et d'autre part, une chambre d'une des casernes du Mont-Valérien. Le nombre total des observations que fit Cornu dépasse le millier. C'est là une précision historique que doivent méditer les philosophes qui n'imaginent pas toujours le travail méticuleux que réclame la détermination d'une seule grandeur physique. Quand nous relations les efforts des aéronautes français pour rompre le blocus du siège de Paris, nous avons dit les essais de ballons dirigeables. Dès février 1872, ces essais sont repris. Le Dupuis de l'Aume, du nom de l'aéronaute qui l'avait établi, prit l'air avec 14 passagers. On reconnut l'influence de l'hélice et du gouvernail, mais malheureusement, l'énergie propulsive était insuffisante. Elle ne permettait qu'une vitesse de 10 km à l'heure. L'aéronaute espérait quand même, en le voyant, obtenir un voyage dirigé. On le voit, le temps des voyages aériens n'était pas encore venu. C'est en février 1874 que se produisit la catastrophe du Zénith. Le ballon sphérique qui monta à 8000 mètres revint avec deux aéronautes sur croix d'asphyxiés. Seul Tissandier put être ramené à la vie. L'accès aux altitudes élevées manquait alors des moyens de sauvegarde dont dispose actuellement l'aviation stratosphérique. Parmi les découvertes qui, en physique, devaient marquer une ère importante, nous devons maintenant signaler la réalisation de la liquéfaction des gaz qu'on avait pris l'habitude d'appeler les gaz permanents en raison de l'impossibilité où l'on était de les liquéfier. L'oxygène et l'azote, les deux gaz de l'air, l'hydrogène et l'oxyde de carbone, avaient en effet résisté à la liquéfaction, même en employant les mélanges réfrigérants les plus énergiques et les pressions les plus fortes. Par une méthode théorique ingénieuse, celle de la détente, deux physiciens, Caltet en France, Raoul Pictet en Suisse, réussirent cette liquéfaction dans les derniers jours de 1877. C'était une réussite de laboratoire. Il faudra attendre la fin du siècle pour obtenir vraiment, d'une manière industrielle, l'air liquide si important dans la technique moderne. Dans la première décade de la Troisième République, bien d'autres problèmes s'imposèrent à la science et à la technique. Par exemple, la rivalité de l'éclairage au gaz et de l'éclairage à l'électricité donne lieu à des remarques qui peuvent nous étonner. Par exemple, Louis Figuier dit que pendant l'exposition universelle de Paris en 1878, Paris fut inondé, on peut même dire, suivant l'expression qu'emploie Figuier, que Paris fut excédé par la lumière électrique. On préférait le gaz, dit notre auteur, à l'admirable avantage de la canalisation. Il monte, il descend, il s'introduit partout, se règle, se distribue par le droit d'un enfant. Il s'arrête et se lance à la volonté et à la minute. Et il ajoute, en rappelant un mot historique curieux, un mot que Napoléon Ier avait prononcé quand il disait « Le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu », Figuier paraphrasait ce mot célèbre en disant « La pile qui doit remplacer le gaz n'est pas encore montée ». Mais la découverte scientifique qui eut
au moins au début, le plus de retentissement, fut peut-être la découverte des machines parlantes, comme on disait, du phonographe et du téléphone. Deux Américains, Edison et Graham Bell, sont, comme on le sait, à l'origine de ces merveilleuses découvertes, bien que notre poète Charles Gros ait vu d'abord la possibilité du phonographe. Une anecdote montrera le peu d'assurance des premières tentatives. Quand le physicien français Dumoncel présenta le premier phonographe à l'Académie des sciences, il voulut rendre hommage à son inventeur. Devant le cylindre enregistreur, il prononça distinctement les mots. L'Académie des sciences remercie M. Edison. Mais l'appareil était mal réglé, et quand Dumoncel voulut faire entendre la phrase de remerciement à ses collègues parisiens, l'appareil ne rendit que des sons rauques et indistincts. Souvenons-nous de cette anecdote quand nous tempêtons contre une mauvaise transmission radiophonique. On apprécie mieux la perfection d'une technique quand on suit les nombreux efforts qui ont été nécessaires à son perfectionnement.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique, rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983, suivi de Gaston Bachelard, bis, archive, 1947-1962. Cette semaine, les grands savants du 19e siècle, l'essor scientifique du siège de Paris à la Troisième République. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Philippe Palares, Hervé Evano, Marc-Hubert Florian.